Voici donc mon exposé de juillet, qui concernera le début du XVIe siècle, une période bien troublée qui n'est pas sans rappeler la nôtre sur plus d'un point. À la mort de Luther en 1546 et pendant toute la fin du XVIe siècle, la guerre se répandait dans toute l'Europe. La situation politique était confuse. Luther avait cherché la protection des princes et en conséquence l'Allemagne se trouvait divisée entre luthériens au nord et catholiques au sud. Du côté de Rome, force est de constater que les papes qui se sont succédés pendant cette période n'ont pas toujours su réagir avec efficacité. Notons en passant que ce fut le temps où régnaient ensemble Charles Quint, François Ier, Henri duc d'Angleterre, des personnalités plutôt affirmées. Lorsque l'époque 1520-1540 fut bien sévère pour tous à cette époque, en particulier pour la papauté. Léon X, pape de 1513 à 1521, fut un grand prince, un grand mécène, glorieux dans le domaine de l'architecture et des arts, protecteur de Michel-Ange, il commença de grands travaux à Saint-Pierre de Rome. Mais il resta très médiocre dans les affaires religieuses. Un grand prince, mais non un grand pape. Il mourut en 1521. Les ambitions politiques se donnèrent alors libre cours dans le conclave qui suivit. Charles Quint soutenait les Médicis, mais recherchait aussi l'appui des cardinaux espagnols et de ceux de Naples et de la Lombardie. Henri VIII d'Angleterre avait le soutien d'un important cardinal anglais. Il faudrait aussi citer la rivalité des grandes familles italiennes. François Ier, roi de France, se défiait de tous. Il allait jusqu'à dire que le Saint-Esprit n'avait pas grand-chose à voir dans tout cela, ce qui est peut-être allé un peu loin. Le conclave aboutit à l'élection du cardinal de Tortore, un ancien précepteur de Charles V, né à Utrecht. Il prit le nom d'Adrien VI. C'était un homme austère, grave, un peu pédant, ajoute l'abbé Hublin. Les Italiens se moquaient de lui, le caricaturant en maître d'école une baguette à la main. Par réaction contre l'opulence parfois tapageuse de son prédécesseur, il n'a voulu habiter qu'une cellule dans le palais du Vatican. Un jour, il bondit d'indignation en entendant le prix d'un filet de pan qu'on lui proposait pour déjeuner. J'ignorais que cet oiseau figurât sur la table des princes. Il se faisait servir par une vieille domestique, il avait limité ses dépenses de nourriture et d'entretien à un ducat par jour, il se levait la nuit pour lire son bréviaire. Bref, c'était un homme droit et austère. Mais il faut reconnaître qu'il n'avait pas les dons qu'il aurait fallu pour bien gouverner l'Église. Comme l'a dit saint Paul, les dons de Dieu ne sont pas répartis de la même manière. L'autorité et la clairvoyance ne sont pas l'apanage de tous. Il n'est que de constater l'aspect lamentable de nos hommes politiques actuels. Il faut des dons exceptionnels pour un bon chef d'État, mais pas Richelieu qui veut. De plus, un pape a la responsabilité de la direction spirituelle de la barque de Pierre. Cela donne parfois le vertige. Décidé à ne s'intéresser qu'à l'essentiel, Adrien VI laissa subsister une quantité d'abus. Cet homme aux intentions pures se confia à deux ou trois personnes qui ne se montrèrent pas dignes de sa confiance. Il s'en désolait. Quelle tristesse de servir en ces temps comme ceux-ci. S'il gardait une réelle amitié pour son élève Charles Quint, il garda toujours une ferme impartialité dans les affaires le concernant. Le roi de France le reconnaissait, il n'avait rien à reprocher à sa conduite. Tout fut tristesse pour Adrien VI. La peste sévissait à Rome et les Romains disaient qu'il n'y avait pas pire peste que le pape. Il a vécu son séjour au Vatican comme le Christ au Mont des Oliviers. Ce court pontificat peut paraître aride. C'est pourtant alors que se préparait le Concile de Trente, et que Saint-Ignace de Loyola s'engageait dans une voie appelée un bel avenir. Les larmes d'Adrien VI n'ont pas été stériles. Un nouveau conclave se réunit en 1523. Il fut le théâtre de discussions, de luttes acharnées entre princes de ce monde. Le cardinal Farnèse faillit être élu, mais il lui faudra attendre encore 11 ans, car une vague concurrente le porta au pontificat Jules de Médicis, qui prit le nom de Clément VII et régna de 1523 à 1524. En bon Médicis, il s'intéressait aux affaires de l'Italie, mais il se sentait coincé entre Milan et Naples. D'un caractère plutôt indécis, il pratiqua une politique de bascule entre les divers potentats. Sa rivalité avec Charles Quint l'amena même à s'unir à des alliés protestants. Il voulait faire combattre l'Italie contre François Ier, faire vaincre la France par l'Autriche, puis l'Autriche par la France. C'était du politique, c'était du Machiavel. Après la bataille de Pavie, il essaya de former une ligue et de rétablir la République florentine. Nous sommes bien loin des disputes doctrinales. Après un premier échec, Clément VII forma une seconde ligne. Le résultat fut le sac de Rome par les armées impériales commandées par le connétable de Bourbon. Effroyable pillage où disparurent bien des chefs-d'œuvre. Pour sauver la ville, le pape donna de l'argent aux Espagnols. L'Italie était dans un état pitoyable et chaotique. Le papito se mesura avec Henri VIII, roi d'Angleterre, un roi aux multiples mariages qui ne répugnait pas à couper la tête des épouses tombées en disgrâce, ou celles de ses ministres comme saint Thomas More. Henri VIII n'acceptait qu'un seul dogme, celui de son infaillibilité à lui. Pendant ce temps, Calvin s'installait en Suisse. En 1536, il dédia à François Ier son livre intitulé « L'institution chrétienne ». Le protestantisme se répandait aussi en Italie et à Naples. Les groupes mystiques fleurissaient de tous les bords. Un moine italien, Bernardo Occhino, qui est mort en 1564, général des Capucins, donna un instant l'espoir d'une réconciliation. Mais il sombra dans la réforme, allant jusqu'à soutenir la polygamie. Certains membres de l'Église voyaient en Charles Quint un ennemi, et pourtant c'était le seul bras temporel de l'Église qui résistait. À la mort de Clément VII, le cardinal Farnèse, évincé 11 ans auparavant par son prédécesseur, fut élu et prit le nom de Paul III. Il régna 15 ans, de 1534 à 1549. C'était une vocation tardive. Il était né... Paul III. Il était né en 1468 et avait donc 62 ans lorsqu'il fut élu pape. Il avait été marié et avait plusieurs enfants. Il laissa des traces dans l'histoire et aussi dans les arts. Il demanda à Michel-Ange de compléter le Vatican et de bâtir le palais Farnèse qui est maintenant l'ambassade de France. C'était un homme de décision. Il a su s'entourer de cardinaux de valeur et d'hommes remarquables qui n'hésitaient pas à exprimer leurs remarques concernant les projets de réforme de l'Église. Et cela avec un franc-parler qui étonnait plus d'un. En homme de caractère, il prenait en compte les critiques si elles étaient motivées. Fin 1534, 3 mois avant son élection, la Compagnie de Jésus prit naissance à Montmartre. Elle accueille l'élection de Paul III avec joie. Sitôt élu, Paul III accorda à Erasme le chapeau de cardinal en récompense de son attachement à la foi. Il avait écrit contre Luther un écrit sur le libre arbitre sans nier l'influence de la grâce. Paul III parvint à un accord entre Charles Quint et François Ier, sans arriver toutefois à les unir contre les Turcs, mais seulement à permettre à Charles Quint de protéger la Hongrie. En France, le luthérianisme s'installait autour de Meaux avec l'aide de Marguerite d'Angoulême, duchesse d'Alençon et sœur de François Ier. Elle demandait à son frère d'aider les luthériens. C'était une mystique, mais une dame qui s'ennuie et ressent profondément le vide des choses. Nous étions dans une situation confuse. Contrairement à ceux qui préconisaient une répression vigoureuse contre le protestantisme, Paul III tenta à plusieurs reprises une conciliation sans pour autant soutenir leur doctrine. Il le fit par l'intermédiaire de deux envoyés, dont l'un nommé Sadolet, entretenait une correspondance avec Mélenchon. Il a écrit « Je ne puis haïr quelqu'un pour la seule raison que je ne pense pas comme lui ». Mais il était peut-être un peu tard. En 1544, une diète se réunit à Ratisbonne. Elle ne put aboutir car Luther rejetait formellement toute entente. Cet échec marqua le début d'une répression plus marquée, attisée par des considérations politiques et des condamnations sans appel. Le raidissement mutuel dégénéra en guerre de religion. En 1545 à 30, Paul III vit se former la Libre Armée, une société de prêtres vivant sous une règle non monastique. Ils ne sont pas astreints de longues méditations tout en restant attachés aux 3 vœux de chasteté, pauvreté et obéissance, un don complet de même qui leur donne plus de force dans la lutte. Dans le même temps, furent fondés les Théatins, dont le fondateur institua l'adoration des 40 heures et le salut du Saint-Sacrement. la fondation la plus illustre reste celle des jésuites, approuvée par Paul III en 1540, en attendant saint François de Sales. L'Église voyait en quelque sorte une nouvelle floraison spirituelle qui fait penser à celle qui eut lieu trois siècles auparavant avec les dominicains et les franciscains. C'était l'annonce du renouveau du XVIIe siècle. Aurons-nous la même chose à notre époque? Je vous souhaite un bon été.